Bonjour à tous. Alors, il y a quelque temps, j'ai été invité dans un rassemblement de jeunes et on m'a imposé de prêcher sur un psaume.
Ah, d'accord.
Ah, il dit Seigneur, j'ai jamais fait ça moi. Alors bon, ben, je dis, il faut s'y plonger. Donc dans les cas-là, comme j'ai pas beaucoup de commentaires sur les psaumes, j'ai une adresse que certains vont connaître, c'est www.pascalcalairelivre. Et donc c'est mon grand fournisseur de commentaires. Et puis, j'ai prié, mais 150 psaumes, qu'est-ce que je vais apporter? Je vais m'adresser à des jeunes et tout. Alors j'ai passé du temps dans la prière, réfléchi après qu'est-ce que je pouvais faire. Et j'ai eu à cœur de parler sur le psaume 51. Et j'étais même étonné d'avoir vraiment ça à cœur, parce que le titre du psaume, c'est un psaume de repentance. Et je me demandais, par rapport à ces jeunes, qu'est-ce que ça pouvait leur apporter. La suite a montré que le Seigneur m'avait vraiment conduit. Et en plus, en étudiant, en travaillant vraiment ce psaume, j'ai vraiment découvert des choses qui étaient très encourageantes. Et je me dis, une des choses que j'aimerais vous dire, c'est que vraiment dans les psaumes, il y a des perles à trouver, mais il faut un peu de transpiration pour les trouver. C'est-à-dire que j'ai remarqué qu'on lisait souvent la Bible avec des lunettes. C'est-à-dire qu'on nous a toujours dit ça sur le psaume, où avant de le lire, on sait déjà ce qu'il y a dedans. Et en fait, quand on commence à se pencher dessus et à le travailler, on voit, mais attends, il y a beaucoup plus, et il y a peut-être des manières de lire qui ne sont pas tout à fait justes. On parle de Luc 15, on connaît tous, c'est le fils prodigue. Hein? Eh bien, c'est faux. Luc 15, c'est l'histoire d'un père avec deux enfants. Vous voyez? Mais il y a un titre au-dessus, et on lit comme ça. Et le psaume là, qu'on va lire, les deux premiers versets, c'est au chef de cœur, psaume de David, lorsque le prophète Nathan vint chez lui après son adultère avec Bathsheba. Et une étude assez approfondie du texte va nous mettre le doute, est-ce que c'est bien David qui a écrit le psaume? Parce que pas mal de commentaires vont dire que ce psaume a été écrit au moment de l'exil du peuple d'Israël. Et David, c'est en l'an 1000, l'exil c'est 650, je crois, 20 ans près. Et donc ça fait déjà un décalage. En plus, la fin du psaume, David demanderait que les murailles de Jérusalem soient reconstruites. Mais quand il commet son adultère avec Bathsheba, il est au summum de ce que je vais appeler sa gloire. Et donc Jérusalem est très puissant. Et donc ça pose pas mal de soucis. En plus, ça pose un souci par rapport au verset 7. Là, dans ma traduction, c'est « Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué dans le péché. » Mais là, c'est plus vraiment de la traduction, il y a presque une interprétation dedans. Hein, et pas mal de commentaires disent non, qu'en fait, sa mère aurait conçu cet enfant en commettant un adultère. Donc, ne me lapidez pas, hein, ne me crucifiez pas. Si vous pensez vraiment que c'est David qui l'a écrit, il n'y a pas de souci, on ne va pas se faire la guerre. Mais je vous dis ça parce que dans ma prédication, il y aura quelques allusions à ça. Là, j'aurais pu vous développer ça plus longtemps et vous dire qu'à partir de ce verset 7, ça a été la base pour développer la doctrine du péché originel, très cher à nos frères catholiques. Vous savez, dans l'Église catholique, on baptise l'enfant, on ôte le péché originel. Et c'est essentiellement sur ce verset, et c'est saint Augustin, un père de l'Église, donc, qui avait beaucoup de problèmes avec l'origine du mal, qui se posait beaucoup de questions là-dessus. Donc, il a pris ce verset pour appuyer sa doctrine avec d'autres après, évidemment. Voilà, donc je passe très rapidement là-dessus. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur ce que je viens de dire, franchement, ça ne me pose pas de soucis. Mais je crois qu'on se fait piéger par nos lectures. Parce que vous savez, les petits renseignements au-dessus, ce n'est pas inspiré par Dieu. Hein. Ça, c'est les scribes qui mettent ça pour dire on lit ce psaume et on joue sur tel instrument, ou on le lit dans telle circonstance. Des fois, vous avez le psaume de David pour le jour du sabbat, ou le psaume de David sur la flûte, ou sur l'harpe, ou sur je ne sais pas qui. Voilà. Maintenant, j'aimerais vous inviter donc à lire ce psaume 51. Alors, je vais commencer exprès au verset 3. « Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche proclamera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un esprit brisé et un cœur humilié. Dans ta grâce, fais du bien à Sion. Construis les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir aux sacrifices de justice, aux holocaustes et aux victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Voilà, une chose avec laquelle, en tout cas, on sera tous d'accord, c'est qu'on a tous une certaine expérience du péché. Ça, là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de désaccord. Et je pense qu'on connaît tous ces moments où, après avoir péché, avoir commis une faute, bah, on se sent sale, on se sent parfois indigne de s'approcher de Dieu aussi, ça. Hein. Vous avez commis des choses qui ne vont pas dans la semaine et quand vous êtes au culte, qui arrive au moment de la scène, bah, vous sentez mal à l'aise parce que là, Saint-Esprit travaille en nous. Il y a des moments même où on peut avoir honte de prier et se sentir comme le psalmiste, dire que le mal nous a éloignés tout doucement de la communion avec Dieu. Et l'auteur du psaume, lui, il a une conscience aiguë de son péché. Et sa conviction de péché, elle ne fait pas de doute. Et dans tout le psaume, il ne cherche aucune excuse devant Dieu. Mais n'oublions pas que sans le Seigneur, le péché n'est rien. Si Dieu n'existe pas, il n'y aurait pas de bien, il n'y aurait pas de mal. Hein? Et vu que nous adorons un Dieu très saint, évidemment, le péché prend encore plus de gravité. Nous avons en tout cas dans ce psaume une invitation à emprunter le chemin qui mène à la libération. Oui, c'est un chemin qui prend en compte la reconnaissance du péché, notre responsabilité devant lui, mais il va de la supplication, de la confession au salut, à la libération. Le psalmiste va montrer finalement trois étapes que nous devons franchir pour avoir vraiment cette pleine libération. La première étape, c'est de croire en la miséricorde de notre Dieu. La deuxième étape, c'est de croire dans la grâce. Et la troisième étape, croire en ce Dieu d'espérance. Alors, croire en la miséricorde divine. Je ne sais pas quelle définition vous donneriez à la miséricorde. Alors moi, je trouve intéressant des fois de demander à des personnes dans des études, ou des, surtout quand on est avec des plus jeunes, ils utilisent des mots, mais dire « comment tu comprends ce mot ?» C'est vraiment rigolo. J'ai envoyé à tous les jeunes que je suis ce qu'on appelle un plan de développement personnel, c'est-à-dire je leur pose une série de questions, et il y a des questions sur la piété, et je demande que... Donne-moi deux choses que tu comptes mettre en place pour ta sanctification. Et personne, de tous les jeunes, personne n'a répondu à la question. Alors, à chaque fois que je les ai, ou en Skype, ou qu'il y a à la maison, je dis, mais qu'est-ce que c'est pour toi la sanctification? Et à chaque fois, il n'y a pas un qui me donne la bonne définition. Et je me suis dit, mais il faut que je fasse attention, j'en parle du vocabulaire qui pour moi paraît ben voilà, naturel, bien sûr, c'est dans mon langage, mais comment les gens comprennent et... Alors, ça serait intéressant hein, si on s'amusait à tous à écrire une définition de la miséricorde. Voilà comment en tout cas je la comprends. Je dirais que la miséricorde, c'est la compassion qui est mise
en action.
Eh bien. C'est voir la misère de son prochain, c'est en avoir mal au ventre et retrousser des manches pour le sortir de sa misère. Car Dieu a tant aimé le monde, mais il n'a pas envoyé une Bible au-dessus des nuages, débrouillez-vous. Non, il a envoyé son Fils. Il a compassion de nous et il agit. Jésus regarde les foules et il dit, il est ému de compassion, il dit, priez pour qu'il y ait des ouvriers dans la moisson. Et après, il envoie ses disciples en mission.
Il y a un pasteur qui disait, c'est la miséricorde, c'est une corde qu'on envoie aux miséreux.
Et au début de ce psaume, vous avez vu, on voit un cri de détresse. Vous voyez, il commence. « Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions, lave mon péché. » J'aime vraiment ce psaume où il ne cherche pas d'excuses. Il ne dit pas, « Oui, mais Seigneur, tu comprends. » Non, non. Il appelle tout de suite à la miséricorde de Dieu parce qu'il connaît son état. Je ne sais pas si vous avez la même réaction que le psalmiste. Parce que vous criez à Dieu comme ça lorsque vous êtes détourné, que vous avez commis une faute, que vous sentez l'Esprit Saint vous convaincre de péché. Est-ce que vous avez ce réflexe de crier à Dieu ? Voilà, je pense comme vous, hein. En tout cas, une chose que j'ai appris, hein, je dis vraiment, je l'ai appris, c'est pas quelque chose qui tombe comme ça. Il faut avoir une bonne image de Dieu le Père, il faut être pleinement assuré de sa bonté pour pouvoir vraiment appeler sa miséricorde. C'est clair que, hein, y a un pas de foi à faire, mais si on a une mauvaise image de qui est Dieu, si on a l'image d'un Dieu perfoitard, un Dieu gendarme, ou si c'est la peur de l'enfer qui nous pousse à confesser au péché, il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, on sait que quand nous péchons, on ne peut faire qu'appel à la miséricorde de Dieu. Hein, on a tous une certaine connaissance de l'Écriture et on sait très bien qu'on ne peut pas faire d'œuvre pour recevoir le pardon. Hein, et on ne peut qu'invoquer le pardon de Dieu qui découle de sa miséricorde. C'est parce que le sang de Jésus a coulé à la croix, tout ça, on le sait. Mais qu'est-ce qui nous motive à aller confesser nos péchés ? Réfléchissez à ce qui peut parfois vous motiver. N'oublions pas en plus une chose importante, c'est que dans l'Écriture, la perspective du pardon dépasse toujours l'ampleur du péché. L'apôtre Paul lui dira « Où le péché abondé, la grâce a surabondé. » Il n'a pas dit « Puisque la grâce surabonde, vous pouvez nager allègrement dans le péché. » Il ne faut pas interpréter de travers. Mais il dit « Même si on a vraiment tombé dans le péché, qu'on est vraiment dans le caniveau, eh bien la grâce va surabonder. » Et je peux toujours faire appel à la miséricorde de Dieu. Et la volonté de Dieu pour le pécheur reste de pardonner et encore de pardonner. Et les psaumes parlent de l'Éternel qui ne se lasse pas de pardonner. Donc ne comparons pas la capacité, j'ai envie de dire, de pardon de Dieu à notre propre capacité de pardonner. Hein, l'apôtre Pierre, est-ce que je pardonnerai jusqu'à 7 fois ? Voilà, wow, il a fait un sacré effort. Hein. Les rabbins, c'était 3. Après, le mec, 7 fois. Alors, est-ce qu'il a choisi le chiffre parce que c'était la perfection ? Tout ça, on ne sait pas trop. Mais enfin, il faisait un gros effort, hein, surtout venant de Pierre, il n'avait pas spécialement un bon caractère et Jésus va lui dire hein, tu pardonneras à chaque fois que ton frère péchera. On peut remarquer en tout cas aussi dans l'Écriture que de tout temps Dieu ne met pas dehors celui qui vient à lui avec un cœur brisé. Le psalmiste demande pardon parce qu'il croit que Dieu peut le laver, le purifier, effacer le péché jusqu'au plus lointain passé. Ôter les poids les plus écrasants et les malédictions les plus tenaces. Alphonse Maillot, donc, a un commentaire, dit que si l'enfant est bien un enfant, le fruit d'un adultère, il pense que même la malédiction suite à ça, Dieu peut l'en libérer. Alors n'ayons pas peur de faire comme le psalmiste, de revenir à ce Dieu qui ne se lasse pas de pardonner dans sa grande bonté. Et rappelons-nous qu'il n'y a pas de péché trop grand pour Dieu. Et je ne sais même pas si on a le droit de mettre une échelle du péché. Hein, certains disent qu'il y a des péchés plus grands. Évidemment, si vous rentrez Charlie Hebdo et que vous tuez tout le monde, là, on choque tout ça, oui, c'est grave. Mais moi, je peux vous dire que la médisance dans une église peut faire autant de mal qu'un coup de mitraille. Hein, combien d'églises ont été divisées au départ à cause de médisance? Hein, donc il n'y a pas de petit péché. Si on croit qu'une graine de moutarde peut devenir un grand arbre, croyez qu'une petite parole mauvaise jetée au bon endroit, au bon moment, peut faire aussi de grands dégâts. Donc pour moi, il n'y a pas de petit ou grand péché. Il n'y a qu'un passage où on pourrait avoir l'idée là, c'est quand Jésus dit à Pilate que celui qui me livre toi commet un plus grand péché. Hein, mais là, c'est par rapport, je pense, à la connaissance de l'Écriture que les pharisiens avaient. Rappelons-nous que dans l'histoire qu'on appelle, hélas, le fils prodigue, le père accueille à bras ouverts celui qui revient à lui. Et il ne lui demande pas « qu'est-ce que t'as foutu avec mon pognon, mon gars ?» Hein ? Parce que j'ai pas pu payer le cultivateur à côté qui est venu retourner. Non, non. Rien. Les premières paroles du père, c'est « on va faire la fête ». Tuer le veau gras, amener les musiciens, tout ça, et il fait la fête. Et c'est comme ça que Dieu nous accueille. N'entassons pas nos péchés dans un coin de notre cœur, comme ça, où on essaye de les cacher, parce que forcément, ça va nous pourrir la vie. Alors, il vaut mieux vraiment en être libéré. Mais, comme certains disent aussi, que pour implorer la miséricorde, nous on a peut-être besoin d'abandonner nos prétentions au pardon. On pense parfois qu'en faisant peut-être des choses, je vais me racheter aux yeux de Dieu. Oui, j'ai commis cette faute, mais enfin, je suis quand même quelqu'un d'engagé, donc celle-là, Seigneur peut bien me la laisser. Bon, on ne parle pas directement comme ça, mais parfois, non. On n'a aucune prétention à recevoir le pardon. C'est parce que je sais que je mérite que la condamnation que je peux implorer la miséricorde de Dieu lui-même. Il y a vraiment un fossé gigantesque entre ce qu'on pourrait appeler notre propre justice et la sainteté de Dieu. Au verset 5, le psalmiste dit « Je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » On peut penser dans tous les cas que la faute est grave, qu'elle occupe ses pensées, ses rêves, en tout cas, qu'elle ne le quitte pas. Et vous savez que des gens qui ont parfois commis un meurtre, pas forcément donc des chrétiens, on espère chez les chrétiens que ça ne se passe pas, mais des gens qui ont commis un meurtre comme ça et qui s'est caché pendant longtemps, le jour où ils se font prendre, quand ils passent aux aveux, bien souvent, t'as entendu, ils disent qu'ils sont libérés. Ils savent qu'ils vont être condamnés, qu'il y aura la prison, mais ils sont libérés tellement que c'est des choses qui sont lourdes à porter. Et je crois que c'est pas facile finalement de cacher ses péchés à Dieu, et même que c'est impossible. Il est le Dieu qui sonde le cœur, qui sonde les reins. Et rien n'est caché devant lui, tout est nu et découvert. Ta vie, ma vie sont comme des livres ouverts devant celui qui jugera toute la terre. Et la libération de nos fautes, quelle qu'elle soit, elle commence toujours par une confession sincère et franche. Une confession, on ne cherche pas à dissimuler des péchés petits ou des péchés grands. Une confession, on ne s'excuse pas, mais on avoue tout. Et une entière confession amène toujours une entière libération. La deuxième étape, c'est croire en la grâce. Si le psalmiste est bien le fruit d'un adultère, alors il croit que la tache de sa naissance, la tare due à l'infidélité de sa mère et ses complexes, tout cela peut disparaître par l'action gracieuse de Dieu. Alphonse Maillot dit qu'on a un petit peu du mal, nous, parce qu'on est tellement individualiste que c'est des choses qu'on, dans notre culture à nous, on a du mal à comprendre, mais quelque part que lui prendrait sur lui le péché de sa mère et la malédiction. Mais il pense que même ça, qu'il n'en est pas le responsable, il peut aussi en être libéré. Et c'est pour ça qu'après, il y a le verset « Dieu crée en moi un cœur pur ». En tout cas, il sait aussi que la volonté de Dieu, c'est de marcher dans la vérité, d'avoir cette vérité au fond de son cœur. C'est vrai, on est tous d'accord pour dire que le mensonge ne devrait pas trouver de place dans nos cœurs après notre conversion. Et Si on était rempli de sagesse, ça nous paraîtrait évident. En général, on n'a pas de mal à comprendre que le mensonge, c'est mal. Hein? Je pense que ça va. Là-dessus, on n'a pas à faire un discours. Et ça, en plus, ces mensonges, ça amène toujours des ennuis. Parce qu'un mensonge, des fois, il faut le cacher avec un autre mensonge. Et après, on commence à descendre dans une spirale qui devient un peu difficile. Mais des fois, on se dit qu'un petit flirt, hein? Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt, hein? Vous connaissez? Un flirt avec le mensonge, je parlais, hein. On a eu. Ah, là, là, là. Vous voyez tout de suite les mauvaises pensées que vous avez eues, juste avoir pris la Sainte-Seine. Ah oui, Seigneur, bien sûr, mentir c'est mal, mais bon, les tout petits mensonges de rien du tout, là, quand même, faut pas blaguer. Ben voilà, le problème, c'est que tout petit mensonge, ben, c'est quand même un péché. Et le problème, là, c'est que le père du péché, c'est du mensonge, c'est le diable, hein. Alors, quand même pas avoir le père diable. Hein. Et je pense que des fois, on a besoin vraiment d'être purifié comme le psalmiste le demande pour que la sagesse puisse vraiment pénétrer en nous. La vérité ne peut habiter que dans des cœurs purifiés. Et vous notez aussi dans ce psaume, le psalmiste a un désir d'une communion renouvelée. Hein, et on a l'impression que le psalmiste se sent quelque part un peu exclu, dans le sens qu'il s'est exclu. Hein, de psaume 46 ou 2, il est dit que le pécheur ne tient pas dans l'assemblée des justes. Hein, et par expérience, je sais que des gens qui commencent à dévier comme ça et à vivre dans le péché, alors ils s'éloignent tout doucement de l'église, et dans l'église, dès qu'il y a une prêche, ils sont visés, dès qu'il y a une prière, ils sont visés, dès qu'il y a une parole, ils sont visés, et tout doucement, ils commencent à s'éloigner. Et tant qu'ils ne veulent pas reconnaître la faute, là-bas, ils s'éloignent. Et ce n'est pas facile après d'avoir un dialogue avec. Ils se sentent exclus, mais en fait, c'est eux qui sont en train de s'exclure. Il utilise un verbe qui est le verbe créer. Crée en moi un cœur pur. Et le verbe créer, là, a toujours pour sujet Dieu. Et c'est le seul endroit dans la Bible où l'utiliser, à part dans le livre de la Genèse où Dieu crée. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut créer à partir de rien. Et c'est pour ça qu'il a toujours comme sujet Dieu. Et donc de la purification, on passe à la création, au cœur nouveau. Et Dieu est le seul qui peut faire du nouveau, qui peut faire du neuf. Il est celui qui peut donner un nouveau cœur, mais aussi un nouveau départ à notre vie. Et ce travail de transformation, évidemment, il se fait dans le secret des cœurs. Il y a une œuvre mystérieuse, comme Jésus rencontre Nicodème, il parle de l'esprit, hein, tu ne sais ni d'où il vient, ni d'où il va, il montre là que finalement l'esprit est souverain, et on ne comprend pas toujours son action. Mais en tout cas, s'il se fait dans le secret des cœurs, il sera visible par les fruits que portera la personne. Et ici, par rapport au psaume, on pourrait penser à la joie et à la paix retrouvée. Et je pense que vous avez tous éprouvé ce sentiment de tristesse lorsqu'on s'est éloigné de Dieu à cause du péché, qu'on se sent mal. Mais vous avez sûrement aussi éprouvé ce désir de retrouver cette communion, on se sent poussé à revenir. Et je pense que là, c'est vraiment une œuvre de l'esprit en nous. On sait que le péché brouille notre communion avec Dieu, avec la communauté, mais quand il est pardonné et Dieu ne revient pas dessus. Vous connaissez certainement cette phrase de Corrie Ten Boom, hein, qui a écrit ce livre, Dieu en enfer, et qui a dit que quand Dieu nous pardonne, il jette nos péchés au fond de la mer. Et elle, elle a dit, il a mis une pancarte où il a noté « pêche interdite ». Et on va dire que le pardon n'enlève pas les conséquences du péché. Si c'est David qui a écrit ce psaume, David y commet l'adultère, il fait tuer le mari de la femme. Une fois qu'il a reçu le pardon, que Nathan dit que l'Éternel lui pardonne, Uri n'est pas ressuscité. Il y a donc des conséquences qu'on ne peut pas changer. La fin du verset 14 montre que le psalmiste, lui, il est conscient de sa faiblesse, puisqu'il demande qu'un esprit de bonne volonté le soutienne. C'est, hein, il demande, crée en moi un cœur nouveau, mais il demande aussi qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Et je crois qu'il est conscient de la faiblesse de sa chair. Hein, que même s'il est pardonné, si Dieu crée quelque chose de nouveau, il est conscient de la faiblesse de sa chair. Et vous voyez comme ce psaume vraiment rejoint chacun d'entre nous. Mais il demande là, il demande d'être assisté par un esprit de bonne volonté. Et la troisième étape, donc, c'est croire en l'espérance. Hein, c'est le passage du psaume qui fait dire qu'il a été écrit à des périodes de l'exil et qui était certainement lu par le peuple, pas par une personne, mais par le peuple. J'aimerais dire que malgré la gravité du péché qu'on pourrait commettre, Dieu ne nous exclut pas de l'alliance. On doit en être conscient parce que c'est pour ça qu'on peut toujours revenir à lui et invoquer sa miséricorde, confesser et recevoir le pardon. Délivre-moi du sang, délivre-moi des sacrifices. Vous voyez, et si on étudie ça d'assez près, on se rend compte d'une chose, c'est que l'auteur du psaume fait certainement partie de cette catégorie de personnes qui avaient compris la limite du sacrifice. Hein, qui avaient compris que le sacrifice en lui-même, c'est pas ça qui fait le pardon, c'est l'attitude du cœur qui va accompagner le sacrifice. C'est certainement la différence entre Caïn et Abel. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais il est conscient que Dieu ne prend pas plaisir forcément à voir ses animaux sacrifiés et tout. Hein, si le cœur n'accompagne pas le sacrifice, il ne vaut rien. Un commentaire disait qu'en offrant un sacrifice, il pouvait avoir l'impression de faire quelque chose pour offrir le pardon. Hein, tu veux pardonner, mais regarde, je vais t'offrir tant d'animaux et tant d'animaux. C'est vrai que la repentance doit précéder le pardon, et la repentance donc est importante dans l'Écriture, mais le pardon se fonde toujours sur la bonté du Seigneur, cette bonté gratuite qu'il manifeste envers nous. Il est le Dieu de notre salut. Notez que le psalmiste ne loue pas sa repentance, mais il loue la miséricorde de son Dieu. Ma langue célébrera ta miséricorde. Alors, est-ce que des prières de reconnaissance, de joie, de louange sont déjà sorties de votre bouche après avoir reçu le pardon ou après vous être réconcilié avec un frère? Est-ce que ces prières sont sorties? Est-ce que c'est des choses qu'on chante encore dans nos églises? Est-ce qu'on célèbre encore la miséricorde, le pardon, la grâce? Et à la fin du psaume, je crois qu'on voit l'espérance d'un peuple. Vous voyez, on est tellement fixé que c'est un psaume de David qu'ici on loupe une dimension. Hein? Et il y a l'espérance d'un peuple. Hein? Ce psaume, s'il a été écrit donc pendant l'exil, on voit un peuple qui est conscient que sa situation de déporté est la conséquence de son péché, de son infidélité, puisque le peuple est souvent appelé un peuple adultère, puisqu'il allait vers d'autres dieux. Mais malgré ça, malgré l'exil, c'est un peuple qui espère en Dieu, qui espère en son retour. Et là, on comprend mieux l'espérance du peuple qui voudrait voir les murailles de Jérusalem reconstruites. Le psaume se termine donc par ce cri d'espérance. Il est parlé donc de reconstruction, mais nous aussi, individuellement, on peut espérer dans la grâce de Dieu, dans son œuvre de reconstruction dans nos vies, dans nos églises, quand nous venons à lui pour être pardonnés, libérés de nos fautes. Et c'est dommage que notre société tellement individualiste nous fait lire la Bible de cette manière, parce que ce psaume, finalement, est-ce qu'on ne devrait pas le lire en tant qu'église, en tant que communauté, pour nos différends, nos divisions, nos mauvaises pensées les uns envers les autres, pour invoquer le pardon, pour invoquer la grâce, pour que l'Esprit de Dieu souffle et crée quelque chose de nouveau. En conclusion, je ne vais pas faire une conclusion, je vais vous lire un texte qui se trouve donc dans ce livre « Paroles et prières pour le culte ». Dieu de tendresse et de sainteté, tu nous as donné tout ce qu'il faut pour vivre heureux. Et pourtant, nous manquons la cible. Nous refusons tes directives. Tu as envoyé ton Fils pour nous montrer ton amour, et pourtant, nous manquons la cible, nous nous éloignons de lui. Tu nous envoies dans le monde témoigner de ton règne de paix et de justice, mais nous manquons la cible, nous restons installés au fond de nos fauteuils. Tu nous veux unis et réconciliés les uns avec les autres par ton Fils, mais nous avons manqué la cible. Nous nous disputons pour des bêtises. Tu nous veux simples comme les colombes, mais nous manquons la cible, nous cherchons à être les plus grands. Nous te demandons pardon de si souvent manquer la cible. Nous te demandons pardon pour notre péché. Jésus est devenu la cible de nos fautes et de notre péché, mais Dieu l'a justifié en le relevant d'entre les morts. Dans la foi en lui, Dieu pardonne, relève et remet en marche. Ciblés sur le Christ, l'Esprit nous précède et nous entraîne. Gloire à Dieu. J'aimerais encore vous inviter à un moment de prière. Seigneur Jésus, je veux encore te remercier pour ce psaume qui nous interpelle et surtout nous rappelle que tu es un Dieu de miséricorde, un Dieu de grâce. Ce Dieu que nous pouvons aujourd'hui appeler notre Père, que tu nous as racheté par le sang de Jésus. Tu as fait de nous tes enfants et nous avons cette joie de faire partie de ta famille. Donne-nous, Seigneur, de ne pas avoir de crainte lorsque nous nous éloignons de toi à cause de nos fautes et que nous puissions venir pour les confesser, pour que nous en soyons libérés. Pardonner, purifier, Seigneur. Oui, comme le psalmiste l'a demandé, crée en nous, Seigneur, un cœur nouveau. Donne-nous, Seigneur, comme un nouvel élan pour toi. Donne-nous de marcher dans l'obéissance, de rechercher la sainteté, et que le péché ne règne point en nous, Seigneur. Tu connais aussi la faiblesse de notre chair, Seigneur, et nous voulons aussi te demander qu'un esprit de bonne volonté nous soutienne. Et nous aide, Seigneur. Merci que tu nous as donné ton Saint-Esprit, tu nous as donné ta parole, et merci pour l'œuvre que tu fais en nous à travers cela, Seigneur. Merci pour l'amour que tu as pour chacun d'entre nous, et merci qu'aujourd'hui nous pouvons dire que chacun de nous, nous avons de la valeur à tes yeux, Seigneur. Révèle-toi encore à nous, Seigneur Jésus. Amen.
Amen. Amen.